C'est le journal de Sébastien Legenny. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, une prime de plus pour un patron français. C'est au tour du PDG de PSA. Il va toucher des centaines de milliers d'euros pour sa bonne gestion du rachat d'Opel. Les syndicats à la SNCF vont-ils changer de tactique? Réunion décisive aujourd'hui de l'intersyndicale avec des appels à durcir le mouvement, mais la base, elle reste divisée. À 8h20, Nicolas, un autre malaise social brûlant, le malaise dans les hôpitaux français. Vous recevez Martin Hirsch.
Le directeur général de l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans le grand entretien de la matinale jusqu'à 8h40. Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, un chauffeur fou au Canada qui tue 10 personnes au volant de sa camionnette. Deuxième jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington après les embrassades, les dossiers qui fâchent. L'hypertension artérielle, un fléau français très mal suivi dans notre pays, explication à suivre. Et puis, nous irons à Bourges pour le printemps du même nom, un festival qui tâche d'éviter les fausses notes. On ouvre donc ce journal avec un premier de cordée qui va se voir récompensé. Il s'agit d'un patron de l'industrie automobile française, Carlos Tavares, le PDG de PSA. Il sera gratifié aujourd'hui d'une prime exceptionnelle, une somme rondelette, 1 million d'euros pour avoir réussi le rachat de la firme allemande Opel. Le conseil de surveillance de PSA est d'accord pour cette prime, les actionnaires également. Ils devraient donner leur feu vert en assemblée générale. Les syndicats, en revanche, eux sont divisés sur la question. Delphine Simon.
Une prime exceptionnelle pour une performance exceptionnelle, explique-t-on chez PSA. On a frôlé la sortie de route. Désormais, le redressement est spectaculaire. Dans le top 5 mondial des constructeurs, PSA vient de racheter l'allemand Opel. La prime était liée à la mise en place d'un plan de redressement de 100 jours qui a été réalisé. Mais pour le délégué CGT Jean-Pierre Mercier, c'est une prime à la casse.
Le PDG Carlos Tavares va tourner au niveau de son salaire à près de 18 350 euros par jour, samedi, dimanche compris et jours fériés, évidemment. On récompense un homme qui a supprimé près de 25 000 emplois CDI dans les usines en France, qui s'apprête à supprimer entre 3 700 et 4 000 emplois dans les usines Opel à peine qu'il les rachetait.
Une prime indolore et inodore, juge pour sa part Force Ouvrière, d'autant que les salariés de PSA ont reçu l'an dernier une prime d'intéressement record. Il n'est donc pas anormal que le PDG du groupe reçoive sa part, observe Christian Lafaille.
Ça représente 6 euros par an et par salarié du groupe. Donc on reste dans des chiffres qui sont complètement entendables. Carlos Tavares, par rapport à Carlos Ghosn de chez Renault, est payé 3 fois moins.
Il y a 2 ans, l'État avait voté contre la hausse de salaire de Carlos Tavares. La BPI, qui vient de reprendre la totalité de ses parts, devra donc se positionner ce matin sur le sujet.
Delphine Simon, du service économique de France Inter.
10e jour de grève aujourd'hui à la SNCF, Sébastien, et toujours pas d'issue en vue.
Oui, pour la deuxième fois en une semaine, tous les syndicats vont se réunir cet après-midi. Une intersyndicale lors de laquelle il sera question de changer ou pas de stratégie, en clair de durcir ou pas le mouvement. Certaines centrales veulent passer à une grève quotidienne reconductible. D'autres proposent d'étendre les arrêts de travail au mois de juillet, mois d'août, voire plus. Alors qu'en pense la base des cheminots? Mathieu Mondoloni s'est rendu à une assemblée générale hier à Paris à son reportage.
Ils se sont succédé au micro pendant plus d'une heure.
Peu importe ton syndicat, c'est un cortège de grévistes.
Pour crier leur colère et leur détermination, mais aussi pour s'interroger sur la stratégie des syndicats qui envisagent désormais de prolonger la grève en juillet et en août. Impensable pour Anas, gréviste et délégué Sudrail à Paris.
C'est un effet d'annonce. Hein. De toute façon, si la grève elle donne pas satisfaction après 36 jours, c'est pas en ajoutant grève le jour du bal des pompiers et à l'ascension qu'on va gagner.
Cette grève partie pour durer coûte aussi aux grévistes, explique Anne. Elle est aujourd'hui retraitée de la SNCF, mais soutient le mouvement d'autant qu'elle a vécu de nombreuses grèves.
2003, 2007, 2010, 2014.
Et qu'elle sait comment tenir financièrement.
Bah on se serre la ceinture, et puis on mange des pâtes, et puis on essaie de s'entraider.
Anne espère maintenant une nouvelle stratégie, instaurer une grève longue et reconductible à la place d'une grève perlée. Un point de vue également défendu par Anas.
C'est une grève gentillette pour l'instant, c'est une grève qui paralyse 2 jours sur 5. Quand on veut faire la grève de la faim, qu'on arrête de bouffer 2 jours, et qu'on mange 3 jours, et ben c'est pas une grève de la faim, c'est un régime.
Un régime qui pourrait faire perdre du poids au mouvement. C'est désormais ce que craignent ces cheminots, alors que les négociations avec le gouvernement sont dans l'impasse.
Mathieu Mandoloni. Côté trafic, pas de changement aujourd'hui par rapport à hier, avec d'assez fortes perturbations. Un TGV sur 3, un Intercité sur 3, 2 Transiliens et TER sur 5 et un train sur 2 à l'international. Même constat de blocage dans les airs. 11e jour de grève pour les salaires à Air France et même prévision qu'hier, près de 75% des vols assurés. Autre mouvement social, l'occupation des universités. Le gouvernement a commencé à faire ses comptes. Les dégâts causés par les blocages pourraient monter à plus d'un million d'euros. Un chiffre annoncé hier par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, 300 000 euros par exemple de dommages à Tolbiac. Même chose à Montpellier où la salle des serveurs informatiques a été dégradée. Le campus de Montpellier où les forces de l'ordre ont repris le terrain hier matin, profitant de l'absence des étudiants pendant leurs vacances. Dans ce contexte social très tendu, comment les Français jugent-ils les deux dernières interventions télévisées du chef de l'État? Selon un sondage Odoxa, à paraître aujourd'hui, Emmanuel Macron fait du surplace et n'a pas réussi à convaincre. 2 points de popularité supplémentaire seulement, 1 point par émission en quelque sorte. Une majorité, 53% des personnes interrogées, portent un jugement négatif sur l'action du président.
Le président français qui poursuit par ailleurs sa visite d'État aujourd'hui à Washington.
Emmanuel et Brigitte Macron accueillis hier en grande pompe, franches accolades, visite du bureau ovale et plantation d'un chêne dans les jardins de la Maison Blanche. Un premier jour consacré à la mise en scène de l'amitié entre les deux présidents, à l'exception toutefois de cette seule déclaration du chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui entend convaincre Donald Trump de ne pas seulement défendre les intérêts américains.
Nous avons, les États-Unis comme la France, une responsabilité toute particulière au moment qui est aujourd'hui le nôtre. Nous sommes des garants du multilatéralisme contemporain et je crois que nous avons, à travers ces échanges, beaucoup de décisions à prendre et à préparer. Cette visite est pour nous très importante, en particulier dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de troubles et parfois beaucoup de menaces.
Place aujourd'hui au premier face-à-face politique entre Macron et Trump. Au programme, une demi-heure d'entretien en tête-à-tête suivi d'une conférence de presse commune. Et ce soir, un nouveau dîner, un dîner d'État, cette fois avec une centaine d'invités triés sur le volet, mais un seul élu démocrate au menu choisi par Melania Trump, de l'agneau cuisiné façon Nouvelle-Orléans et de la tarte à la mandarine. Restons en Amérique du Nord avec cette attaque meurtrière. Hier, dans les rues de Toronto, la plus grande ville du Canada. Une attaque à la camionnette Bélier, encore très mystérieuse, sans lien apparent avec la mouvance terroriste. Un homme de 25 ans a délibérément fauché à l'heure du déjeuner des dizaines de personnes sur les trottoirs ensoleillés d'une des artères les plus populaires. Bilan 10 morts et 15 blessés. Pascal Guéricola.
Pour l'instant, on ignore tout des motivations du suspect qui a volontairement fauché des passants et des piétons, profitant de leur pause déjeuner sur l'avenue Yonge, une des principales artères de Toronto. Alec Minassian, 25 ans, originaire d'une petite ville au nord de la métropole ontarienne, ne semblait pas avoir de casier judiciaire, ni non plus être connu des services de renseignement. Pour l'instant, il semble avoir agi seul et n'a donné aucune indication sur les motivations qui l'ont poussé à lancer son véhicule sur les piétons. Voilà peut-être pourquoi le ministre de l'Intérieur canadien a fait cette courte déclaration hier en fin de journée à Toronto. Ralph Goodale.
Sur la base des informations disponibles à ce stade, il ne semble pas y avoir de lien entre cette tragédie et la sécurité nationale. Les événements qui sont survenus sur la rue, juste ici derrière nous, sont horribles, mais ils ne semblent pas constituer une menace pour la sécurité du pays.
Ralph Goodale participait à une rencontre des ministres des Affaires étrangères à Toronto pour préparer le prochain sommet du G7 qui se déroule au Canada en juin. Désormais, l'enquête démarre. Elle permettra peut-être de faire la lumière sur les motivations du tueur. À Québec, Pascal Guéricola pour France Inter.
En Allemagne, c'est une autre agression qui secoue le pays. Une agression antisémite qui est à l'origine demain d'un très grand rassemblement prévu dans les rues de Berlin. Berlin porte la kippa, c'est le nom du mot d'ordre des organisations juives qui appellent donc les Allemands à manifester leur solidarité. La semaine dernière, un jeune portant la kippa a été délibérément agressé en pleine rue. La correspondance de Cyril Sauvageau.
Tout est parti d'une vidéo amateur tournée mardi dernier dans le quartier cossu de Prenzlauer Berg à Berlin. On y voit un jeune homme se faire frapper à coups de ceinture et traiter de juif en arabe parce qu'il porte une kippa. L'agresseur, un Syrien d'origine palestinienne, s'est rendu de lui-même à la police 2 jours plus tard. Quant à la victime, il a révélé qu'il n'était pas juif, mais arabe israélien et qu'il voulait voir ce qu'il risquait avec une kippa dans la capitale allemande. L'affaire a choqué l'Allemagne et remis en lumière la montée inquiétante de l'antisémitisme dans un pays où les actes de ce genre ont longtemps été le fait de groupuscules néo-nazis. En réaction, un appel à rassemblement est donc lancé pour demain. Tous les Berlinois et Berlinoises sont conviés à porter la kippa devant le centre juif de Berlin. Le maire Michael Müller est attendu, ainsi que des représentants des communautés religieuses et le comité des survivants d'Auschwitz. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Il est 8h11, on revient en France avec cette étude inquiétante, Sébastien, sur l'une des maladies chroniques les plus répandues.
L'hypertension artérielle. 1 Français sur 3 en souffre. Une pathologie dangereuse car elle est à l'origine de nombreuses maladies cardiovasculaires. Or, d'après une étude publiée aujourd'hui par Santé publique France, eh bien, l'hypertension est mal diagnostiquée et mal prise en charge dans notre pays, surtout chez les femmes. Les précisions de Daniel Messager.
Connaissez-vous votre tension? Si vous avez plus de 14,9, vous êtes hyper tendu, avec un risque d'accident vasculaire cérébral, mais aussi d'arythmie ou d'insuffisance rénale. L'étude publiée aujourd'hui est la première depuis 12 ans sur une population en moyenne âgée de 47 ans et ce qu'elle démontre est plutôt inquiétant. Un dépistage insuffisant, des patients dépistés qui ne sont pas toujours traités puisque 30% des personnes ne suivent aucun traitement. Et chez les patients qui prennent un médicament, seulement la moitié ont une tension contrôlée, c'est-à-dire abaissée sous ce seuil des 14,9. Quant aux femmes, si l'on compare la France à des pays à revenus identiques, Allemagne, Angleterre, Portugal, elles sont moins traitées, 49% contre 61%. Alors l'hypertension ne se soigne pas que par prise de médicaments, mais aussi par une perte de poids, la réduction de l'apport en sel. Mais manifestement, ces messages ne sont pas encore passés, car si la fréquence de l'hypertension a baissé chez nos voisins d'environ 3%, ce n'est pas le cas en France. Un adulte sur 3 est toujours concerné.
Daniel Messager, spécialiste santé à France Inter. L'hypertension artérielle, un fléau sous-estimé en France, est à retrouver sur franceinter.fr. Et maintenant, une affaire médicale qui en rappelle une autre, l'histoire du petit Alfie, comme un écho à l'affaire Vincent Lambert. Alfie est un petit bébé britannique de 23 mois, très malade et pour lequel la justice anglaise veut arrêter les soins, mais les parents s'y opposent. On a appris hier que l'Italie allait venir en aide aux parents en accordant au bébé la nationalité italienne. À Rome, Mathilde Imberti.
Le petit Alfie, presque 2 ans aujourd'hui, vit depuis l'âge de 6 mois sous assistance respiratoire. Il est hospitalisé dans un état semi-végétatif. Mais ses parents ne se résignent pas à l'arrêt des traitements et viennent d'obtenir l'aide inédite de l'État italien. En accordant la nationalité à l'enfant, les autorités italiennes espèrent qu'il sera transféré rapidement à Rome. Car l'hôpital pédiatrique sous autorité du Vatican, l'hôpital de l'enfant Jésus, propose d'accueillir le petit Britannique. C'est une mobilisation globale de l'Église romaine. Son père a été reçu par le pape et le chef de l'Église catholique s'est publiquement prononcée pour le maintien en vie de l'enfant malade mercredi dernier, place Saint-Pierre à Rome.
Je voulais répéter et confirmer de manière forte que le seul maître de la vie, du début jusqu'à la fin naturelle, est Dieu. Et notre devoir est de tout faire pour protéger la vie.
Les parents espèrent que les médecins italiens apporteront un nouveau diagnostic. L'enfant souffre d'une maladie neurodégénérative rare et ne respire qu'artificiellement. L'Italie va à l'encontre des décisions de la justice britannique qui refuse d'ordonner la poursuite des traitements. La Cour européenne des droits de l'homme avait elle aussi rejeté l'ultime requête des parents du petit Alfie. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Et on termine en musique avec l'ouverture ce soir du Printemps de Bourges.
Avec un des temps forts de ce festival, la présence du rappeur Orelsan, un chanteur qui avait défrayé la chronique il y a près de 10 ans. Aujourd'hui, ses textes ne font plus polémique. En revanche, pas de Bertrand Cantat au programme. Le Printemps de Bourges, qui comme les autres festivals, tente de naviguer entre les artistes sulfureux et les polémiques. Mathieu Culeron.
La question s'est posée d'inviter Bertrand Cantat au Printemps de Bourges. C'est finalement Boris Vedel, directeur du festival, qui a tranché.
Pour ma part, en tant que directeur de festival, quand j'invite des festivaliers ou j'invite plusieurs artistes et je peux mélanger des publics, je n'aurais pas programmé Bertrand Cantat. Maintenant, c'est un artiste et c'est un homme libre. Il a le droit de faire des concerts et personne ne peut l'empêcher. Et si un directeur de festival veut le programmer, qu'il le fasse. Après, faut être conscient effectivement du choc et de l'émoi que ça peut provoquer. Ça, c'est libre à chacun.
Il faut dire qu'en 2009, la présence du rappeur Orelsan avait provoqué une polémique pouvant remettre en question sa programmation. Thierry Langlois est programmateur au Printemps de Bourges.
Il a fait ses premiers concerts au Printemps de Bourges dans les plus petites salles, au 22, et puis c'était la grande époque de son titre qui a été décrié par la presse, où il a été déprogrammé de plein de festivals, de plein de salles. Et à cette époque, on a été aussi, nous, poussés un peu à l'annulation. Et ce jour-là, Daniel Colling a refusé d'annuler Orelsan, refusé de se faire dicter sa liberté artistique. Et ce concert a été maintenu. Et voilà, je pense qu'Orelsan s'en souviendra tout le temps. Et pour lui, ça évoque beaucoup de choses, que je pense que ça l'a aidé aussi à continuer d'exister et puis derrière à être reprogrammé par ailleurs sur d'autres événements et en salle, quoi.
Orelsan qui sera présent jeudi sur la scène du W au Printemps de Bourges.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi les échelles pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de
plus. Voilà, Orelsan au Festival de Bourges qui ouvre ce soir avec un concert 100% féminin. Programme Véronique Sanson, Catherine Ringer et Juliette Armanet.
Merci Sébastien Legénil.